confortablement. Radio Grogny passe en direct dans 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et à tous, poney de tous âges et de tous horizons, et bienvenue dans cette première diffusion de Reading Night, l'émission qui lie à votre place. Je me présente, je suis Astaen, et je serai votre hôte ce soir, et d'autres soirs à venir. Mais je ne suis pas seul, j'ai avec moi Zéphyr, notre webmaster et animateur favori, qui participera à la lecture de ce soir. Salut Zéphyr.
Coucou.
On reçoit aussi l'une de nos auditrices, Naomi64, qui a bien accepté de prêter sa voix pour la lecture de ce soir. Bonjour Naomi.
Yeah.
Et donc, sans plus tarder, on va peut-être lire. J'ai oublié de lire. Notre cher ami Graco, fondateur de cette radio, a bien voulu daigner être là ce soir. Donc,
oui. Bonsoir, fan adoré, plutôt auditeur adoré, mais excusez-moi de ne pas avoir été là le soir de l'ouverture, un peu des problèmes techniques. Risque voilà, du métier.
On t'excuse.
Mais déjà qu'il était pas là, si tu l'oublies en plus, ça va pas aller. Hein.
Et donc, sans plus tarder, on va peut-être commencer à lire. La lecture de ce soir, la fanfiction qui a été votée, qui a eu la majorité des votes, c'est Pony War Chronicles, qui a gagné contre My Little Dashi. À ma grande déception, puisque moi je voulais lire My Little Dashi, mais c'est pas
oui, mais c'est à très de l'ordre.
Moi aussi je voulais My Little Dashi, c'est pas lui.
Oui, mais bon, on doit s'adapter à la communauté.
Oui, c'est ça, le peuple a parlé. Donc c'est parti, on va lire votre fanfiction. Pony War Chronicles, recueil premier, tranche de guerre. Alors. Oui, introduction, une guerre de poney.
Comment en est-on arrivé là ?
Shadowstalker regarda par l'ouverture. Ils étaient deux dans cette tour de garde. Au-delà des tranchées creusées en contrebas, il voyait ce qui aurait pu être autrefois une verte prairie. Au lieu de ça, il ne voyait que terre retournée, débris métalliques et poneys morts, que personne n'osait aller chercher à cause de types comme lui. Shadowstalker raffermit la prise sur son fusil. Il prit un brin de paille que lui tendait la ponette à côté de lui. Son assistante, Windvision.
Tu veux dire la guerre, tout ça ?
Non, ça.
Il désigna les tranchées en contrebas. Windvision vit qu'il désignait un Pégase gris, sa coche sur le dos, galopant à travers les galeries, s'arrêtant pour livrer un colis, puis reprenant sa course. Soudain, le Pégase trébucha.
Derby fait ce qu'elle peut. Dans le temps, elle était factrice. Mais je crois que c'était pas moi.
Répondit le poney vert pomme.
Le mouvement ? C'est pas son truc. Elle était bien plus efficace immobile, une lunette sur l'œil.
Tu lui en veux de nous avoir quittés ?
Non, elle avait de bonnes raisons, mais je regrette cette perte.
Tout le monde connaissait la tragédie de Derby Hooves. Qui aurait pu croire, sous son air affable, ses gaffes constantes et ses yeux qui se disent bonjour, qu'elle était le meilleur sniper de tout le pays ? Comme beaucoup, ce talent n'avait été révélé que par la guerre. Shadowstalker lui-même avait été un flanc blanc, pendant longtemps incapable de trouver sa voie. La mire qui ornait son flanc témoignait que certains poneys n'étaient pas faits pour la paix. Derpy, quant à elle, avait aussi rejoint les rangs de la princesse Luna. Pendant des mois, elle avait, le cœur serré, contribué à la mort de nombreux fanatiques de la princesse folle, Celestia. Et un jour, tout a basculé. Le jour où elle avait appris que sa fille était dans le camp adverse, le jour où elle avait appris qu'elle était sa cible, et qu'elle avait appris tout cela trop tard. Shadowstalker avait dû déployer tout son savoir-faire pour calmer la Pégase folle de douleur. Lui et elle étaient les meilleurs tireurs d'élite des forces lunaires, voire des Kestria. Plus encore, ils étaient amis. Lui seul a pu l'empêcher de massacrer l'état-major et la princesse de la nuit. Lui seul a pu l'empêcher de mettre fin à sa vie. Mais depuis, Derpy ne touchait plus une arme. Comment en est-on arrivé là ? Shadowstalker le savait. Plus il y pensait, plus cela lui paraissait ridicule et le renforçait dans sa conviction d'avoir choisi le bon camp. Un simple coup de folie. La princesse lune solaire était bonne, protectrice. Elle aimait ses sujets. Trop. Lorsque les 6 héroïnes réunirent les éléments et sauvèrent sa sœur, elle était heureuse. Mais désormais, elle ne contrôlait plus les éléments. Désormais, elle ne contrôlait plus la lune. La princesse ne connaissait pas la jalousie, mais l'arrivée de Discord lui montra ce qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle était impuissante à protéger ses sujets. Petit à petit, cette idée fit son chemin dans sa tête, jusqu'à ce qu'elle aille trop loin. Le jour où les Changelings avaient attaqué Canterlot pour raffermir son pouvoir, ses lois se firent de plus en plus restrictives. Elle exigeait l'obéissance, elle exigeait l'adoration. La princesse Luna finit par voir la folie couvant chez sa sœur. Mais suite à une dispute, Celestia bannit Luna. Cette dernière, ne pouvant supporter de voir son pays entre les mains de sa sœur dans cet état, elle voulut soustraire les poneys à l'influence de la princesse du jour. Elle fit une déclaration de sécession, la mort dans l'âme, dans la ville de Ponyville, enjoignant les poneys à la suivre. Mais d'autres, des fanatiques fidèles à la déesse du soleil, s'attaquèrent à eux. On appela cet événement le massacre de Ponyville. Luna réussit à s'échapper grâce à quelques courageux poneys, ses premières troupes. La guerre éclata entre l'Empire solaire et la République lunaire nouvellement formée. Le ciel fut bloqué, la lune à moitié levée, le soleil à moitié couché, et le ciel prit une teinte rouge sang des plus lugubres, bourrée de nuages non nettoyés. La politique n'intéressait pas Stalker. En témoigne sa marque, il ne vivait que par et pour la guerre, et mourrait en même temps qu'elle. Une vision s'approcha du bord, avec l'air d'avoir remarqué quelque chose. Stalker regarda son arrière-train, une marque en forme d'œil de Russe. La ponette verte pomme à la crinière rouge et blanche portait bien son nom, l'assistante parfaite pour un sniper.
Où ?
Le poney vert regarda la boussole.
15 degrés ouest.
Shadowstalker regarda dans sa lunette. Un poney marron, profitant sûrement de son camouflage naturel, voulait ramasser le corps d'un de ses camarades. Le tireur d'élite se demanda s'il ne fallait pas le laisser, lui donner une possibilité d'enterrer dignement son ami. La détonation qui suivit régla la question. Première réminiscence, la boucherie de Sweet Apple Acres. Alors, un petit rappel vite fait, les réminiscences sont des flashbacks en fait, des mémoires du passé. Et les chroniques sont le présent dans Ponyware Chronicles, voilà. C'était en pleine guerre des souris, alors que la princesse Luna n'avait pas encore assez de partisans pour mener une guerre ouverte. Nous menions alors des guérillas et des raids pour survivre et échapper à l'oppression. Malheureusement, le tyran s'en servit pour nous faire passer pour des meurtriers. Des voleurs, des lâches, à défaut de traîtres, ce que nous revendiquions être, et ne pouvons donc pas porter atteinte à notre honneur. De plus, nous manquions de soutien influent. Des 6 héroïnes, 3 s'étaient coupées de cette guerre, 2 s'étaient déjà liées à l'ennemi. Damoiselle Rarity, elle, nous soutenait en forme et pierre précieuse, mais restait en retrait. Twilight Sparkle était, nous l'avions toujours su, la première et la plus dévote des fanatiques de Celestia. C'était normal, après tout. Elle lui devait toute sa vie. Rainbow Dash, elle, était liée à l'Empire par son caractère loyal. Au fur et à mesure, elle se rendait elle-même aveugle à la folie de la princesse, devenant une machine fiable. Pinkie Pie s'était enfui de tristesse face à l'horreur du massacre de Ponyville, suivie par Fluttershy, qui tentait en vain de la calmer. Nul ne savait où elles étaient parties. Enfin, Applejack, ne souhaitant prendre aucun parti... Enfin, Applejack ne souhaitait prendre aucun parti. Sa ferme se vantait de nourrir les deux camps et servait de camp de réfugiés pour les victimes de la guerre. Sweet Apple Acres était une zone de combat, était une zone sans combat, fertile au possible avec une météo comme celle que nous avions constamment. Suite à un raid aérien, les partisans de la princesse noire s'étaient retrouvés sans abri, sans nourriture et tous dans un état lamentable. Malgré les risques pour elle-même et pour la famille Apple, Luna conclut un accord avec la ferme. Installa son quartier général caché sous les fondaisons de la plantation et les blessés étaient traités comme les autres à la ferme. Luna souhaitait partir dès que ses troupes auraient repris des forces pour ne pas mettre en danger la pauvre famille de fermiers. Elle n'en eut pas le temps. Shadowstalker se retourna sur sa couche. Désormais, il voyait le dos d'un poney gris à la crinière jaune clair. Son corps tremblait. Il lui semblait même entendre des sanglots étouffés. Shadowstalker posait une patte sur l'épaule du Pégase et lui caressa doucement l'épaule.
« Il va bien, ne t'inquiète pas. »
Le Pégase se retourna, dévoilant ses yeux qui la rendaient si spéciale.
« Désolé, je ne sais pas ce qui me prend. »
« Le docteur s'en est sorti, j'en suis sûr. Il est increvable, tu le sais bien. »
« Oui, mais... »
Le Pégase Attends, s'interrompit pour enfouler une arme. Vas-y.
Oh, je sais pas. Depuis le bombardement, j'arrête pas de penser à Dinky.
Elle est en sécurité. Elle va bien. Repose-toi, maintenant.
Je n'y arrive pas. J'en ai marre. Je...
Shadow lui posa la patte sur la bouche. Il savait quand arrêter quelqu'un qui allait passer la barrière du choc. Il n'était pas leader des tireurs d'élite de Luna pour ses seules qualités de visée. Derpy l'aurait dépassé sinon. Mais il connaissait ses soldats. savait comment leur parler, comment les utiliser. Il était stratège lorsque Luna était devant un cas requérant discrétion et précision. Et à présent, il savait que si Derpy se lançait, il ne saurait quoi dire. J'en ai marre. Il eut dans l'esprit l'image de sa marque. Lui n'en avait pas marre. Lui vivait ce qu'il était né pour vivre. C'était triste, mais il aimait la guerre. Elle lui donnait un but, une vie, un espoir d'être. Non, il n'en avait pas marre. Il regarda le Pégase aux yeux divergents. Le docteur avait de la chance. Dinky aussi. Un cri déchira la nuit. Lourde implication. L'échine de Shadowstalker s'était à peine hérissée qu'il était debout, a enfilé son gilet pare-balles et son équipement. Derpy avait été à peine moins rapide. Stalker l'aida tout de même à passer la tête dans son gilet. Derpy restait Derpy. D'autres cris parvinrent, tous provenant de la ferme et du camp de réfugiés. Célestia avait donc passé outre l'accord de non-violence. Luna avait tellement espéré pouvoir partir avant d'être découverte. La princesse, à la crinière de nuit, sortit de sa tente au galop et se dirigea vers la butte qu'elle avait repérée plus tôt. Et une fois au sommet, porta son regard vers la ferme, d'où venaient d'autres cris de souffrance. Elle se retourna. Ses troupes d'élite étaient déjà prêtes. Sans un mot, elle s'élança à travers le verger, et tous la suivirent. Un bombardement passait encore, mais s'attaquer aux blessés...
Célestia.
Une larme coula sur la joue de Luna. Une fois dans la forêt de pommiers, les soldats, rompus à l'art de la guérilla, se mirent à avancer dans une totale discrétion. Luna elle-même fut guidée par des scouts et profita de ce moment pour enfiler sa combinaison de combat. Elle ne laisserait jamais ses partisans prendre des risques sans se mouiller elle-même. Autour d'elle, des dizaines de poneys fonçaient dans un silence presque absolu vers la ferme. Ils s'arrêtèrent à l'orée du verger. Les cris de souffrance avaient fait place aux lamentations. Aux côtés de Luna se postèrent une grande licorne noire, musculeux, son chef de la garde Platinum Armor, et le stratège et sniper Shadow Stalker. Enfin, un petit poney vert pomme se leva à ses côtés.
« Que vois-tu, Windvision ?»
demanda la princesse. Le petit terrestre plissa les yeux. Au même moment, Luna aperçut un bref instant du mouvement devant elle.
« J'ai pris la liberté d'emmener Derpy en éclaireur, votre majesté. »
Luna hocha la tête.
« Pitié, Shadow. Appelez-moi Luna. »«
Rien à faire. Je n'y arrive pas. »
Le campement est sans dessus-dessous. Il y a de nombreux cadavres. Les impériaux rassemblent des prisonniers. Nous ne pouvons pas les laisser là.
Tant qu'ils sont prisonniers, ils ne sont pas morts. Une attaque frontale les condamne.
Alors, que faisons-nous ?
L'étalon rouge prit un brin de paille et se l'enfonça dans la bouche. Il se mit à réfléchir en mastiquant.
Personnellement, je...
Il fut interrompu par des éclats de voix. Les poneys rebelles tendirent l'oreille jusqu'à entendre une voix fortement accentuée.
Vous prenez ? C'est une zone libre ici, vous n'aviez pas...
Un poney en uniforme, un masque blanc, sans expression sur le visage, l'interrompit.
Vous aviez promis de ne prendre parti pour... Vous aviez promis de ne pas prendre parti pour un camp. Je n'ai pas pris parti. Nous savons que vous cachez les rebelles dans votre ferme. Le traité a été rompu. Il est inutile de mentir, honnête Applejack. Tout ce qui se trouve par terre aujourd'hui, c'est votre faute.
Applejack baissa la tête et devint livide. L'horreur de la scène lui brûla les yeux. Tous ces cadavres, c'était une véritable boucherie, pour peu qu'un poney sache ce qu'est une boucherie. « Ma faute », se dit-elle. Applejack frappa du sabot et toisa l'intrus, qui peinait à la dépasser, corne incluse.
« Ma faute ! Tout ce que j'ai fait, c'est donner un abri à un clinique d'estropié, mis dans cet état par vos bandes d'armement. Mettez pas ce carnage dans le dos, parce que vous assumez pas être un monstre. »«
C'est heartless. » »« Ah merde. » »«
Ça c'est ça. C'est heartless. »
Et merde, ça se complique.
Windvision, que se passe-t-il ?
Applejack se dispute avec Heartless.
Ça, c'est encore moi.
Oh.
Applejack se dispute avec Heartless.
Ça va mal finir, commenta Platinum Armor. Il faut agir.
Bon, écoutez-moi.
Le plan est simple. En faisant un signe pour qu'il se rassemble autour de lui.
Le plan est simple et rapide à mettre en œuvre. Les tireurs se postent autour de la zone. Les troupes, vous avancez aussi discrètement que possible, sans être repérés. On attaque à mon signal.
Qui sera ?
La mort de Heartless.
Applejack n'en pouvait plus. Elle ne pouvait pas lutter. Elle le savait. Cette psychopathe allait la tuer. Elle, sa famille, et brûler sa ferme, si elle ne lâchait pas prise. Mais elle s'y refusait. Pour une raison qu'elle ignorait, elle ne voulait pas la laisser gagner. Elle s'apprêta à répondre, mais l'autre l'interrompit.
Il suffit. Nous en allons. Emmenez les captifs. »
Fit-elle à un poney qui se tenait derrière elle. Elle se retourna, fit quelques pas et ajouta.
« Oh, et brûlez-moi ce bazar. »
Applejack resta abasourdi, une seconde trop longtemps. Des soldats pourvus de torches foncèrent vers la grange et lancèrent leurs fardeaux à l'intérieur. La paille prit feu immédiatement.
« Non !»
Elle vit alors d'autres poneys se diriger vers le verger et lancer d'autres torches. La plantation commença à brûler.
« Pourquoi perdre du temps à chercher les rebelles ?»
fit la licorne masquée. Les rebelles, eux, réprimèrent un ricanement. Les forces impériales avaient lancé leurs torches de l'autre côté, et désormais, le camp n'avait plus que la moitié de ses effectifs. Shadowstalker fit un signe discret, et Derpy pressa la détente. Heartless resta abasourdi quelques secondes, puis s'effondra, un trou béant dans l'ours. Une centaine de poneys, blessés mais en colère, sortirent de leurs cachettes, et la boucherie changea de camp. Des dizaines de claquements secs, suivis du râle ou du silence, montraient l'étendue de la malchance de ceux qui se trouvaient dans le viseur des tireurs entraînés par Shadowstalker. Applejack contempla la grange en feu, incapable d'exprimer quoi que ce soit. Soudain, elle entendit un appel à l'aide d'une voix trop familière qui provenait de l'intérieur de la grange.
« Applebloom !»
cria-t-elle en se jetant dans la fournaise. Immédiatement, l'air surchauffé lui assécha les lèvres. Elle chercha partout autour d'elle, au sol, à l'étage, sans rien voir que feu et fumée. Quand elle vit sa petite sœur sauter à terre, à un endroit épargné par les flammes, Applejack se rapprocha avec précaution, toussant et criant le nom de sa sœur.
« AJ !»
fit Applebloom en voyant sa sœur. Ses yeux s'allumèrent d'espoir. Applejack se prépara à sauter pour la rejoindre, mais un mouvement capta son intention.
« Applebloom !»
Trop tard ! La poutre enflammée se détacha et tomba à l'endroit où se trouvait sa sœur une seconde auparavant. Applejack fut horrifiée. Elle se prépara à sauter pour sauver sa sœur, mais des membres puissants la retinrent.
« Lâchez-moi, Bloom !»«
Arrête, AJ, arrête !» lui dit son frère. « C'est fini !» Les yeux pleins de larmes, Applejack regarda à l'endroit où se trouvait sa sœur. Elle ne vit qu'une patte. Une patte immobile. Une patte sans vie.
« Applebloom !»
Big Macintosh la traîna dehors, juste à temps pour éviter l'effondrement du toit de la grange. Applejack hurlait, pleurait. Son grand frère la maintenait contre lui, l'enserrant dans ses bras, lui chuchotant que tout était fini, d'une voix tremblante. Il n'allait pas mieux, mais son devoir de grand frère lui imposait de garder la tête froide, ou du moins, pas trop chaude. C'était dur. Autour d'eux, les combats avaient cessé. Ils restèrent enlacés quelques minutes, mais la princesse Luna s'approcha d'eux. « Allez, se dit-elle, plus tard ne sera jamais un bon moment. » Applejack leva les yeux, plein de larmes vers la licorne bleue nuit. Luna prit un air peiné.
« Je suis désolée, Applejack, de redoubler ta peine. Granny Smith est morte. »
Applejack ne parvenait plus à réfléchir. Elle ne comprenait plus rien. Applebloom, Granny Smith, sa famille partait en lambeaux.
« Elle a voulu s'opposer à ceux qui voulaient brûler le berger. Je... »
Applejack hurla. Big Macintosh la serra contre elle, les yeux ruisselants. Luna haïssait sa sœur. Cet événement fut la déclaration de guerre entre la famille Apple et l'Empire solaire. Mais pour l'heure, la vengeance était encore masquée par la peine. Shadowstalker se dirigea vers le cadavre. Celui-ci émit un petit bruit.
« Toujours pas morte ?»
demanda-t-il en portant un nouveau brin de paille à sa bouche.
« Je n'ai pas de cœur. Vous ne pouvez pas me tuer. »
On a touché le poumon.
Heartless ça et cracha du sang.
Tu veux que je t'achève ?
Sais-tu pourquoi je suis sans cœur ?
Shadowstalker s'accroupit pour m'y entendre. Il avait appris à respecter les dernières paroles d'un mourant.
On me l'a arraché au début. On m'a pris ma personne la plus chère.
Autre quinte de toux sanglante.
Qui ?
Ma...
Heartless écarquilla les yeux, surprise par ce qu'elle voyait derrière Shadow. Elle s'agita. Mais la surprise emballa son cœur. Ses yeux se révulsèrent. Elle cracha une autre gerbe de sang. Heartless n'était plus. Une larme coulait sur sa joue. Shadow se retourna pour voir une Derpy pétrifiée. Ses yeux étaient écarquillés, à tel point qu'ils s'étaient presque réalignés.
Non, 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 non.
Elle se jeta sur le cadavre.
Non, pitié, pas ça. Tout mais pas ça. Non.
Elle tentait d'enlever la combinaison du corps, mais ses tremblements lui faisaient perdre toute habileté. Finalement, Elle arracha le masque de celle connue sous le nom de Heartless. Derpy Hooves hurla. Chronique numéro 1. Opération secondaire. La tension aurait presque pu prendre forme matérielle. Sickworm regarda à droite, puis à gauche. Comme elle, une trentaine de poneys étaient couchés, fusils au sabot, le corps tendu. Le plus dur était toujours l'attente. Elle fixait son chef d'unité. Au signal, ils courraient. Ils courraient vers leur destin, quel qu'il soit. Mort ou victoire. Ou carnage. Sickworm ne voyait pas ce qui se passait au-delà de la butte. Elle entendait les tirs de mortiers frappés. Elle entendait les hurlements de l'ennemi, souffrance et ordre ne requérant aucune discussion. Elle sentait le sol trembler sous elle. Cela lui rappela la course des feuilles. Elle chassa immédiatement cette pensée. Ceux qui se prenaient à la nostalgie mourraient en premier. Le barrage dura de longues minutes. Le sergent Rainfall se repassa mentalement le plan. Leur objectif était un village où s'étaient retranchés des éléments ennemis. C'était juste un petit village, pas un endroit stratégique, vital en soi, mais qui se trouvait en territoire lunaire et servant de refuge à un peloton ennemi. Une épine dans le flanc qu'il fallait enlever, sous peine de graves ennuis, et les solaires résistaient farouchement. Si seulement nous pouvions les bombarder, un raid de Pégase aurait vite fait de les déloger au mieux, les faucher au pire, mais malheureusement, le monopole du ciel ne revenait pas au lunaire. Pas depuis la bataille du ciel, pas depuis que Ren Bodach avait assuré la mainmise de Celestia sur l'espace aérien. Les Pégases des forces de Luna, aptes à un combat aérien, étaient désormais trop peu nombreux et trop précieux pour les utiliser dans des opérations secondaires comme celle-ci. Alors, on envoyait les pousse-cailloux. Soudain, le barrage cessa, et un coup de sifflet retentit. Il fut immédiatement suivi du cri de guerre de 90 poneys. Les lunaires avaient bombardé le village, plus pour faire en sorte que l'ennemi se retranche et ne prépare pas de défense efficace que pour causer de réels dommages. Trois escouades de 30 poneys chacun chargèrent le village en trois points différents. Pretty Liv galopait en hurlant. La jeune ponette n'avait peut-être pas une voix de guerrière, mais le cri qui franchissait sa bouche s'ajoutait à la puissance du rugissement des lunaires. Cela avait pour effet de dissiper sa peur et de lui donner du courage. C'était primal, mais efficace. Elle songea pendant un court instant à son amie Sickworm, qui était attachée au groupe Est. Elle-même faisait partie du groupe Ouest, le dernier groupe attaqué par le Sud. Quand elle avait demandé pourquoi il n'encerclait pas totalement le village, notamment par le Nord, on lui avait répondu que couper toute retraite à l'ennemi le rendait encore plus dangereux. En effet, celui-ci était alors dans une situation où il n'avait rien à perdre et se battait jusqu'à la mort. En lui laissant une porte de sortie, on faisait en sorte qu'il songe à s'enfuir, même inconsciemment. Cela réduisait son ardeur à se battre. Ça, c'était la théorie. Mais est-ce que cela fonctionnerait face aux fanatiques de la folle ? Une rafale claqua depuis le village, et des petits morceaux du sol s'envolèrent, traçant une ligne pointillée. Au deuxième essai, le tireur avait ajusté sa visée, et Pretty Liv entendit un gémissement. Elle sentit comme un vide derrière elle. Elle leva son arme et tira tout en continuant de courir et hurler. Galoper à trois pattes était une des premières choses que l'on apprenait à un soldat, et pouvait parfois lui sauver la vie, ou lui permettre de charger en tirant, dans le cas présent. Le poney appuya sur la gâchette, et les projectiles de mort foncèrent vers le village. Partout autour du village, les échanges de tirs se faisaient entendre. Rainfall s'efforçait de ne pas ralentir l'allure. Ils étaient à découvert pour les derniers mètres, et s'arrêtaient signer leur arrêt de mort. Les tirs ennemis provenaient des fenêtres, principalement des étages supérieurs des bâtiments frontières du village. Par chance, le barrage de mortiers avait détruit les fortifications qui bloquaient l'accès aux rues du village. Ils seraient bientôt en sécurité, mais pour l'instant, ils étaient des cibles de fêtes foraines. Il fit un signe de tête à une licorne derrière lui qui portait un gros engin en métal. Celle-ci acquiesça, s'arrêta et sa corne se mit à luire, ainsi que son fardeau qui se déplaça devant elle. Elle le prit, le déplia. L'engin était lourd, et les seuls à pouvoir le manier étaient les licornes. Une mitrailleuse super lourde, le genre de modèle qui ne pouvait être utilisé que de façon fixe, ou sur un véhicule. Mais les ingénieurs lunaires avaient détecté le potentiel des licornes dans l'utilisation de ces engins. Elles pouvaient s'en servir en marchant. Un poney se logea près de la licorne, bardé de ceintures de munitions. Celle-ci était plus grosse que la moyenne, et le poney enclencha une de ses ceintures dans la mitrailleuse. L'engin se mit à cracher la mort. Chaque impact arrachait des pans entiers de murs, et à chaque fois qu'un projectile passait par la fenêtre, une gerbe de sang en sortait. Les tirs ennemis se firent moins nombreux, alors que les solaires se mettaient à couvert du terrible engin. Une chance qu'il n'ait pas de sniper, c'était le point faible des licornes super lourdes. Les puissantes détonations des mitrailleuses de l'est et de l'ouest. Les deux autres groupes avaient eu la même idée que lui. Parfait. Il continua sa charge. Il lui restait à peine 50 mètres, mais ça aurait pu être des kilomètres qu'il n'aurait pas vu la différence. Sikorm avait mal. Ils avaient enfin atteint le village, mais une balle lui avait traversé la patte arrière au moment précis où elle avait dépassé les fortifications détruites des solaires. Heureusement pour elle, elle avait réussi à se traîner à l'abri d'un porche, mais elle avait besoin de soins. Elle vit le médecin de son unité passer juste devant elle. Elle cria son nom, et le soldat tourna sa tête vers elle. Il galopa vers elle, et sans rien dire, examina sa blessure. Il lui fit faire quelques mouvements atrocement douloureux, puis sortit une seringue et piqua juste à côté de la blessure. Presque immédiatement, la douleur cessa. « Tu peux la bouger ?» demanda-t-il. Worm fit quelques mouvements. Oui, elle pouvait la bouger. Le médecin mit une compresse sur la blessure, puis s'arrangea pour la maintenir en place. Puis il partit après un dernier avertissement. Je t'ai injecté du booster. Fais attention. Le booster était l'ami du soldat, en même temps que son pire ennemi. Il permettait d'annuler la douleur sans endormir ou pervertir les autres sensations. Un abus de ce produit pouvait rendre totalement insensible à la douleur. Mais cela entraînait inévitablement un comportement suicidaire, car quelqu'un ne ressentant pas la douleur se croyait immortel. Son utilisation était tacitement soumise à des restrictions dans les deux camps. Sikorm se releva et rejoignit les combats. Une fois les lunaires entrées dans le village, le poids du nombre commença à se faire sentir. Le sergent songea qu'il s'était fait maltraiter depuis des jours par moins d'une cinquantaine de retranchés. Et aujourd'hui, il ne devait pas y avoir plus de 30 solaires à se battre. Des détonations claquèrent à sa droite et il ressentit le souffle des balles autour de lui. Il se rejeta en arrière, à l'abri d'un mur. Ainsi, les cinq poneys qui le suivaient, pour couvrir un maximum de terrain, les partisans de la princesse de la nuit s'étaient séparés en groupes de 6, et eux étaient bloqués. Renfall sortit un petit miroir et regarda le reflet. Les ennemis étaient 3, retranchés derrière un petit muret, avec une mitrailleuse fixe. Il était impossible au sergent et à ses soldats de traverser la rue sans se faire tirer dessus, comme un Nightmare Night. Un détail attira l'œil du sergent. Il rapprocha sa tête du miroir, pour la rejeter aussitôt en arrière, évitant de peu de l'avoir éclatée par une balle. Il avait sorti sa tête du couvert. Il n'était pas passé loin d'une mort stupide, mais au moins, il savait comment débloquer la situation. Il fit quelques signes rapides à l'attention de son équipe, et 3 poneys partirent en sens inverse pour prendre l'ennemi à revers, grâce à un mur effondré qui avait repéré le sergent. Maintenant, la diversion. Le sergent goupilla une grenade et la balança à l'aveuglette. Il espéra avoir bien calculé son coup.
À couvert !
Parfait. La grenade explosa et les 3 poneys se mirent en position de combat dans la rue. Les ennemis s'étaient cachés derrière le muret pour échapper à l'explosion. Désormais, les 3 lunaires les empêchaient de se relever. Les audacieux baissaient rapidement la tête, sous peine de l'avoir troué. Il ne restait plus qu'à attendre l'autre équipe, ce qui ne tarda pas. Les solaires furent massacrés sans pouvoir répondre. Le sergent réunit ses soldats. Désormais, ils passaient au nettoyage. Ils se mirent en position autour de la porte du bâtiment le plus proche. Le sergent enfonça la porte. Les combats s'atténuaient déjà. Pretty Liv n'entendait désormais plus que quelques rafales isolées, étouffées car elles provenaient de l'intérieur des maisons. Elle ne savait pas ce qu'il était advenu des autres équipes. Elle suivait le chef de la sienne de façon automatique, les pensées brumeuses. Elle n'était suivie que de 2 poneys. Les 2 autres avaient eu la malchance de croiser la route d'un lanceur de grenades particulièrement doué. Jeannette faisait ce qu'elle pouvait pour ne pas y penser, mais ses yeux arrivaient à peine à retenir ses larmes. Le chef d'unité fit un signe, et l'équipe se mit en position autour de la porte d'un bâtiment. Le soldat le plus proche de la porte l'ouvrit d'un coup et visa à l'intérieur.
Reste.
Le chef et les soldats pénétrèrent le bâtiment. Pretty Liv entra la dernière, vérifiant que personne ne leur tombait dessus par derrière. À l'intérieur, c'était un couloir donnant sur quelques pièces. Les poneys de tête défonçaient les portes et vérifiaient que les pièces étaient vides. Puis un RAS tonnait, et il continuait, et il continuait. Pretty Leaf passa devant la porte défoncée d'une cuisine, et un mouvement attira son attention. Un soldat ennemi blessé se trouvait là, se traînant au milieu de la cuisine. À en juger par les traces de sang, il venait d'entrer par une fenêtre, cherchant sûrement à échapper à ses poursuivants. Pretty Leaf était pétrifié. Le soldat à l'insigne en forme de soleil leva les yeux et la vit. Ils se dévisagèrent un court instant. La bonnette était partagée entre stupeur, panique et pitié pour le blessé. Son arme pointée vers le soldat. Celui-ci baissa les yeux vers l'arme, alors que Pretty Leaf était saisi d'un léger tremblement. Puis il releva les yeux. Puis soudainement, plongea vers son pistolet. Pretty Leaf appuya. La première balle fit éclat et cervelle sur le carrelage de la cuisine. Mais la bonnette a desserré la prise. Les balles s'en suivirent, faisant éclater des morceaux de chair et projetant des brumes de sang. Les nerfs de Pretty Leaf lâchèrent et elle hurla de façon stridente. Même lorsque son arme fut déchargée, elle ne put relâcher la pression, son arme émettant des petits cliquetis alors que le mécanisme ne rencontrait plus de munitions. En face d'elle, le cadavre était à peine équin. Son crâne était inexistant et son corps était réduit sur la surface, en face d'elle à une gelée pourpre. Pretty Leaf hurlait et pleurait, incapable du moindre mouvement. Des sabots puissants la tirèrent en arrière et elle lâcha son arme. Puis le chef d'unité la plaqua contre le mur, la maintenant fermement.
« Soldat, Pretty Leaf ! Leaf, regarde-moi ! Leaf, je suis là !»
Les yeux de la ponette refusaient de se fixer sur quoi que ce soit.
« Leaf, je suis là ! C'est fini ! Regarde-moi !»
Finalement, les yeux de la ponette rencontrèrent ceux de son chef d'unité. Elle le fixa pendant quelques secondes, droit dans les yeux. Son regard était à la fois sévère et inquiet. Cela la calma progressivement. Lorsqu'elle eut fini de trembler, le chef la libéra. Elle commença à tomber, mais il la retint et la posa à terre. Il désigna un des soldats.
« Tu restes avec elle, toi. Toi, avec moi. »
Ils pénétrèrent la pièce. C'était la première bataille de Pretty Leaf. Les coups de feu avaient cessé, Sikworm était soulagé. Il ne restait que ce bâtiment et il était plus que probablement vide. Elle entra toutefois avec prudence, suivie du reste de son équipe. Ils inspectèrent le rez-de-chaussée, puis, quand ils furent assurés que personne n'était présent, ils montèrent les escaliers. Soudain, elle entendit des bruits de pas, puis des gémissements et même des sanglots. Elle qui avait espéré un bâtiment vide. Elle et les autres soldats se mirent en position près de la porte d'où venaient ces bruits. Malheureusement, celle-ci s'ouvrait vers l'extérieur, et le couloir était très étroit. Ils ne pourraient pas courir le secteur comme ils le devraient. En fait, Worm allait devoir sécuriser la pièce presque toute seule. Peu lui importait. Elle se prépara, puis ouvrit violemment la porte et pointa son arme vers l'intérieur. Elle se retint de tirer. Ils avaient trouvé l'infirmerie. À l'intérieur de la chambre se trouvaient une dizaine de poneys blessés à divers degrés. Presque tous la regardaient, l'œil morne. Certains étaient debout, d'autres couchés. L'un d'entre eux était même en train de prier, une grenade dans les mains. Une grenade ? Sikworm s'aperçut alors que tous les soldats présents avaient une grenade dans le sabot. Dégoupillé. Elle tenta de fermer la porte le plus vite possible, mais elle réagit une seconde trop tard. Les grenades explosèrent dans un parfait ensemble et la pression rouvrit la porte à la volée, percutant le crâne de Sikworm et l'envoyant en arrière, contre le mur, contre lequel elle se cogna de façon brutale. Ce fut le noir.
Sergent, Rainfall, au rapport.
La radio grésilla.
Parlez, sergent.
Le village est sous contrôle.
Bilan des pertes.
5 morts dans notre camp, dont le lieutenant Pilgrim Phaser. 22 blessés, dont 3 dans des états critiques. Nous avons aussi un cas de violent traumatisme.
Quel genre ?
Une nouvelle n'a pas supporté. Elle est en route pour le camp d'aide psychiatrique.
C'est de plus en plus fréquent. Et du côté ennemi, avez-vous fait des prisonniers ?
Non, commandant. Même les blessés se sont suicidés. D'ailleurs, à ce propos...
Sikworm se réveilla, mais garda les yeux fermés. Elle sentit des draps chauds autour d'elle. L'atmosphère était calme et avait une légère odeur d'éther. Elle devait être à l'hôpital. Elle ouvrit les yeux. Il faisait noir. Elle tâtonna et finit par trouver l'interrupteur de la lampe de chevet. Elle cliqua dessus, à plusieurs reprises, mais il n'y avait pas de lumière. Elle sentit que quelque chose lui serrait la tête. Quelle idiote ! On avait dû lui bander les yeux pendant ce trou commun. Elle enleva le bandeau, mais il faisait toujours aussi noir. Elle cliqua sur l'interrupteur, toujours rien. Un sourd malaise monta en elle. Tremblante, elle approcha son sabot de l'endroit où se trouvait son œil. Avec réticence, elle se mit le sabot dans l'œil et sentit la structure molle et humide. Elle avait les yeux grands ouverts, mais il faisait toujours noir. Et c'est la fin pour le Reading Night de ce soir.
La suite au prochain épisode.
Exactement.
Alors la grande question, c'est comment vous avez trouvé pour cette première émission?
Pour moi, je peux dire que ça n'a pas été de la tarte.
Ah, mais en même temps, la voix off, elle parle beaucoup. Donc.
J'ai soif, j'ai très soif.
Ah ouais, c'est normal, c'est normal.
Bon, c'était pas mal pour une première, quand même.
Ouais, d'ailleurs, c'est pas mal parce qu'ils en redemandent. Ils en redemandent. Ah. Et Astaine, tout le monde applaudit ta performance.
Ah, merci. Parce que, personnellement, j'ai perdu le fil de l'histoire. À un moment, je faisais lire sans comprendre. C'était un peu stressant.
Non, mais ça va, tu t'es repris au bout d'un moment. En fait, le truc, c'est que il faut qu'il y ait des voix différentes parce qu'après, tu perds. C'est dès qu'on a recommencé à parler, nous.
Ouais, mais on n'est pas très bien organisé au niveau des voix, c'est le problème.
C'est la première, tranquillement.
Alors, les gens veulent qu'on continue, c'est ça?
Ouais.
Je sais pas, moi, j'ai pas le chat sous les yeux, là.
Non, mais on fera peut-être plus long pour la prochaine fois. Là, c'est vraiment pour...
Ouais, là, je préférerais qu'on s'entraîne un peu avant.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment une mission test pour voir...
Bon.
Alors, pour l'information que j'ai sur Skype, tacitement, c'est un verbe français. Ce n'est pas tactiquement. Voilà, c'était la petite remarque.
Personnellement, je ne connaissais pas. C'est pour ça que j'ai hésité quand je l'ai dit.
Non, non, c'est bien tacitement.
Je croyais avoir mal lu.
Ça veut dire avec hésitation.
Ah, il y a beaucoup de demandes de continuer, mais en même temps, il y a des gens qui s'en vont, donc...
Ouais. Mais alors, juste avant que les gens
s'en vont... Non, on a quand même 29 fois.
Je vais faire quand même le speech que j'ai dit sur le chat là tout à l'heure, et après je me tairai tout jamais, je vous promets. Pour les gens qui sont sur Steam, l'intégration est très mauvaise, je vais sûrement la désactiver d'ici peu, parce que malheureusement, ça fait des pseudos n'importe comment. Donc les gens qui sont inscrits actuellement avec Steam, il va falloir vous réinscrire, je suis désolé. Voilà, donc ça sera fait. Le live stream, il y en a certains qui se sont trompés entre le live stream et le player audio. Pareil, dans les jours à venir, le live stream sera caché dans le cas d'émissions uniquement audio et le chat sera rallongé. Donc, du coup, vous aurez beaucoup plus de place pour parler. Et je crois que j'ai fait le tour des annonces que j'avais à faire.
Ok.
Oh, 31 auditeurs.
Ça m'a bousillé la voix, ce truc, en fait.
Ouais, en tout cas, j'ai trouvé ça très sympa de faire ça avec vous. Et puis, merci.
À la prochaine.
Et bah, merci à toi.
Prochain.
On te réinvite. Mais
oui,
bien sûr.
Vous écoutez Fresh Brownie, la radio numéro 1 de Brownie Music en France.